proposée aujourd'hui. Encore une fois, je suis désolé d'avoir à présenter en deux heures un dossier aussi énorme. J'aimerais beaucoup pouvoir discuter beaucoup plus longuement avec vous et répondre à vos questions. Le problème, c'est que j'aurai du matériel pour une année de cours et je dois mettre tout cela dans une période de temps très limitée de moins de deux heures. Donc, je voudrais d'abord répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière sur Olympia d'or et les Titans. Ils viennent ça, c'est les Titans. Je ne sais pas si la personne est là aujourd'hui. Donc, pour Olympia d'or, j'ai beaucoup hésité. Et effectivement, il y a de quoi hésiter, puisque dans le dictionnaire des philosophes antiques de Richard Goulet, il y a trois Olympia d'or d'Alexandrie. Il y en a un qui est, donc deux du cinquième après. Un qui est un prof aristotélicien, l'autre qui est un alchimiste, et début du sixième, un autre Olympia d'or d'Alexandrie qui serait le nôtre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très très bien quel est le rapport entre les trois, et s'il ne faut pas considérer que deux sont, sera pas quand même bon ami. Et donc, en ce qui concerne la passion de Dionysos, tué par les titans, tué par les titans et ensuite foudroyé par Zeus, effectivement, on retrouve cette histoire au livre 6 des Dionysiaques de Nonos de Palapolis, qui a écrit ces Dionysiaques, c'est-à-dire les récits relatifs à Dionysos. Donc, c'est dans le livre 6. Et donc là, c'est très différent parce que des titans ne viennent pas les hommes. Et Zeus foudroie les titans et ça va pas très bien parce qu'il met le feu à la terre. Donc il est obligé de déclencher un déluge pour... Donc c'est vraiment très différent. Mais l'histoire était déjà bien connue à l'époque, donc, au 5e. Donc aujourd'hui, vous avez un exemplier qui se présente un peu toujours de la même façon. Donc... Au point de départ, mon exposé présentera ces divisions, donc un rappel de la situation historique dans laquelle les Zoracadaïques ont été composés, une bibliographie, les Zoracadaïques en tant que tels, donc les auteurs, la réception chez les néoplatoniciens et la réception dans le monde byzantin, si j'en ai le temps. Donc ensuite, on passera au contenu. Et puis, vous avez une bibliographie, six textes, et je vous ai remis la table de correspondance entre le système le système néoplatonicien exposé par Proclus, les Zoracadaïques et les Rhapsodies orphiques. Donc je rappelle très rapidement situation. Platon meurt en 348. On a d'abord une nouvelle académie qui défend les doctrines de Platon face aux critiques d'Aristote. Quelques décennies plus tard, l'Académie change complètement de sens, et là, ça devient une réponse aux critiques des stoïciens. Donc, on refuse que le critère de la vérité, ça soit la sensation. Et donc, on va aboutir à l'époque d'Antiochus, d'Ascalon, et puis aux alentours de l'époque de Cicéron, à un rejet de cette interprétation de Platon qui aboutit au probabilisme, au scepticisme, et on va aller dans un autre sens, et on va faire de Socrate et Platon des disciples de Pythagore, et surtout on va essayer de trouver dans la parole des dieux le véritable critère de vérité. La certitude, c'est la parole des dieux. Donc, la semaine passée, j'ai parlé des Rhapsodies orphiques. J'ai essayé de montrer comment par l'intermédiaire des rhapsodies Orphée, on aboutissait à des mystères qui permettaient une révélation de la vérité au niveau de l'intelligible. Aujourd'hui, je vais parler des oracles chaldaïques, et donc ces oracles sont un autre moyen d'aboutir à une certitude venant des dieux. Et donc, comme je l'ai dit et je vais le répéter, je pense que tout cela est justifié chez les platoniciens par le fameux texte du Phèdre de Platon, 265 AB, sur les quatre types de folie. En gros, il y a deux cas. Il y a la folie humaine, qui est une inadaptation aux règles de la société et qui s'explique par des maladies, par un contexte social bouleversé, etc. Mais il y a aussi la folie divine qui nous fait rompre avec les règles de la société, mais pour accéder à un niveau supérieur. Et donc, Platon distingue quatre types de folie. La folie qui vient des oracles et qui est associée à Apollon, l'inspiration mantique, qui est associée, l'inspiration mantique, c'est-à-dire les oracles associés à Apollon, l'inspiration initiatique, les mystères dont j'ai parlé la semaine dernière, associée à Dionysos, bien évidemment, la folie poétique, associée aux muses, et finalement, la folie amoureuse que Platon associe à Eros et à Aphrodite, et qui est la folie philosophique. Mais on voit très bien dans la suite du fait que Platon fait une coupure très nette entre la folie philosophique et les trois autres types de folie. Et donc, nos platoniciens de la fin de la fin hellénistique et et du début de notre ère vont utiliser ce texte, mais en l'interprétant d'une façon inclusive, si on peut parler ainsi, c'est-à-dire y mettre sur le même pied la philosophie, la poésie, les oracles et les mystères. Et donc, aujourd'hui, on va parler des oracles. Et c'est très intéressant de faire un bref rappel de la situation des oracles au deuxième siècle, des oracles au premier siècle avant notre ère et dans les siècles qui ont suivi notre ère. Et comme va nous l'expliquer la semaine prochaine Frédéric Ildefonse, et on le voit très bien chez Plutarque, à l'époque, les oracles traditionnels, et donc je vous renvoie au dialogue pythique de Plutarque, le de Delphes, c'est-à-dire le 5 de Delphes, pourquoi la Pythie ne remplit ses oracles en verre et la disparition des oracles. Et donc, à cette époque, les oracles traditionnels disparaissent, bon, entre guillemets. Donc, à l'époque classique et à l'époque hellénistique, les sanctuaires oraculaires avaient beaucoup de succès et on allait leur poser des questions qui consistaient prendre position sur les futurs contingents. C'est-à-dire, est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois faire la guerre? Etc., etc. Et l'oracle répondait oui ou non, et si on payait, eh ben, on avait un petit poème qui nous expliquait ce qu'il en était. Et ces sanctuaires étaient très, très florissants, ils faisaient beaucoup d'argent. Et donc, au deuxième siècle de notre ère, on observe ce que l'on peut qualifier de disparition des oracles. C'est une désaffection à l'égard des oracles traditionnels, et ça ne doit pas être interprété comme une baisse du prestige des oracles. C'est tout simplement parce que les questions que l'on pose aux oracles ne sont plus les mêmes. On ne cherche plus à connaître l'avenir, ni surtout à savoir quel type de conduite on doit prendre sur tel ou tel, sur tel, ou tel événement. On veut que le Dieu donne des précisions sur lui-même, sa nature, son action, son mystère, sur le monde, sa constitution, sa structure, et surtout sur le salut de l'âme. Ça, c'est fondamental, et c'est pour ça qu'on aura une cosmologie. Et surtout sur le salut de l'âme, en rendant plus facile la cosmologie de l'âme vers la divinité. À l'intérieur du monde, c'est-à-dire par l'intermédiaire des planètes d'abord, et puis des astres fixes ensuite. Donc, mais le contexte de production des oracles n'est plus le même. Il s'agit de consultations divinatoires, comme illustre par exemple la figure d'Alexandre d'Abonoti, qui est maintenant, donc, c'est Ineboulou en Turquie maintenant. Et donc, c'est un contemporain des auteurs des oracles chaldaïques, qui n'est connu que par un récit très hostile, mais très drôle de Lucien. C'est vraiment très, très drôle. Le personnage, donc, avait instauré dans sa ville natale un oracle et des mystères qui attiraient sous l'Empire romain beaucoup de dévots. L'existence de cet oracle, où intervenait Asclépios sous les traits d'un serpent amené de Pella en Macédoine, est d'ailleurs attestée sur les monnaies. Il y a un très bon article de Louis Robert, qui est un très grand épigraphiste sur le sujet, sur les sanctuaires d'Asie Mineure. On se met alors à constituer de grandes collections d'oracles, par exemple les oracles sibyllins, s'insérant dans ce courant au cours du IIIe siècle. Porphyre, donc 234-335, rassemble des oracles en un recueil auquel il donne le nom de philosophie tirée des oracles. C'est vraiment aussi très important. Donc on voit là chez Porphyre un changement considérable par rapport à Plotin. Donc Plotin qui considérait que la vérité se trouvait dans le domaine de la philosophie, et donc Porphyre, son disciple, qui produit une philosophie tirée des oracles. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'édition qu'on a est très mauvaise, et ça demanderait être refait de fond en comble. Et donc, Porphyre nous présente son... C'est très intéressant, donc c'est une citation d'Eusèbe de Césarée, et Porphyre nous présente son recueil de cette façon. « Le présent recueil comportera l'exposition d'un grand nombre de principes philosophiques concernant les vérités que les dieux ont voulu exprimer dans leur oracle. » Donc on a donc cette idée que la vérité vient des oracles. Des oracles sont aussi cités par plusieurs autres œuvres d'orientation philosophique. Donc il y a un oracle d'Apollon dans la vie de Plotin, chapitre 22. Donc Amélius demande à un oracle, on ne sait pas lequel, où se trouve l'âme de Plotin. Et donc on a une cinquantaine de vers, 55 vers, où on nous explique que Plotin est bien évidemment avec l'âme de Platon et celle avec l'âme de Platon et celle de Pythagore dans le royaume des dieux. Et donc il y a un article à Aedesius par Eunap dans la vie des sophistes. Il y a une nouvelle édition, traduction par Richard Boulet, c'est vraiment très intéressant. Un oracle sur Julien dans la chronique du même Eunap. Un oracle rendu à Apollonius de Tyane après sa disparition dans Philostrate, et un oracle sur Proclus dans la vie de Proclus par Marinus, le 28. Et enfin, un oracle de Dieu chez Augustin dans la cité de Dieu, chapitre 19. Donc, comme vous le voyez, à l'époque où seront publiés, où seront fabriqués, pas publiés, les oracles chaldaïques, il y a tout un courant qui va dans ce sens. On cherche la vérité dans la parole divine révélée par l'intermédiaire d'oracles. Et donc, certains des philosophes du IIe siècle, je vais vous citer quelques philosophes du IIe siècle, c'est-à-dire des philosophes contemporains, de la production des oracles chaldaïques, Donc, certains des philosophes qui ont promu ce rapprochement entre le platonisme et le pythagorisme aux alentours de notre ère ont aussi favorisé en philosophie un retour vers l'autorité des dieux par l'intermédiaire de la folie oraculaire associée à la folie divine, associée à la folie philosophique dans le Phèdre. Et donc, je vous cite, donc Théon de Smyrne, la première moitié du deuxième de notre ère, est le premier qui rapporte la philosophie platonicienne aux différents degrés de l'initiation pratiquée dans les mystères. Donc, c'est la fameuse exposition des connaissances mathématiques utiles pour la lecture de Platon, c'est le chapitre 14. Pour Cels, deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère, l'homme ne peut entrer en contact avec Dieu que par l'intermédiaire des démons. Donc c'est dans Origène contre 7, 8, 38. Et pour répondre à la question qu'il vient de poser, Maxime de Tyr, deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère, s'exclame « Ah, connais-je à consulter quelque oracle, que soit de Zeus ou d'Apollon, pourvu qu'il voulût répondre d'une manière ni obscure ni ambiguë. » C'est le 11e discours. En philosophie, donc, la parole n'est plus seulement à la raison, elle est aussi aux oracles. Et le moyen platonisme où se faisait sentir l'influence du néo-pythagorisme qui allait fournir la structure conceptuelle de ces textes célèbres que sont les oracles chaldaïques et et certains autres ouvrages philosophiques cette époque. Les oracles chaldaïques eux-mêmes. Et d'abord les auteurs, et vous verrez que c'est quelque chose de spécial. Ah oui, j'ai oublié de vous donner la bibliographie. Je me concentre sur les livres. Excusez-moi, je m'arrête ici avant de commencer le véritable exposé. Donc, vous avez une feuille avec une bibliographie. Le point de départ de tout ça, c'est Wilhelm Kroll. Qui a publié sa thèse intitulée De Oraculis Chaldaicis, 1894. Mais si je cite cet ouvrage, qui est absolument fondamental pour comprendre les oracles chaldaïques, c'est qu'il vient d'avoir une nouvelle traduction par le père Seffry, donc en 2016. Et donc, je la fais circuler, tu la connais.
Oui, mais je l'ai relu. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est d'abord une traduction de la dissertation allemande, enfin de la dissertation latine de Wilhelm Kroll de 1894, écrite dans un latin devenu assez difficile à comprendre pour nous, une sorte de germano-latin par moment. Et en général, cet ouvrage était cité avec vénération, mais peu lu. Et le père Seffry en a donné une traduction complète en actualisant toutes les références. C'est-à-dire que les oracles sont, dans la dissertation de Kroll, donnés avec la référence aux éditions de la fin du XIXe siècle des auteurs néoplatoniciens, parfois de manière un peu sibylline, ce qui fait que ça devenait difficile à interpréter, et tout a été actualisé, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un ouvrage, un instrument de travail très, très important.
Oui. Donc le deuxième livre qui marque l'histoire des oracles chaldaïques, c'est le livre de Hans Lilly, qui a été publié en 1956 et que Michel Tardieu a republié en 1978 et surtout en 2011. Donc c'est un gros bouquin parce que Michel Tardieu a ajouté aux oracles chaldaïques plusieurs suppléments, dont un bilan et perspective de Pierre Hadot, et surtout, une bibliographie complète de 1891 à 2011. Et ça, c'est incroyablement utile, donc je vous le fais passer. Donc, en ce qui concerne Hans Lilly, mais j'en parlerai avec Helmut Zenk, avec le livre de Helmut Zenk, la perspective est très différente de celle qui est la mienne et que j'ai adoptée. Donc, le troisième livre important, et donc même s'il est discutable, c'est l'édition des oracles chaldaïques par le père Leclerc. Et donc, mon exemplaire est tout cassé, j'ai essayé de le maintenir.
et avec les extraits, les commentaires oui, de Psellos, c'est ça.
Donc, il y a non seulement les Soracadei, mais il y a le Psellos, il y a plusieurs ouvrages de Psellos, enfin, plusieurs passages venant de Psellos, un commentaire aux Soracadei, une exposition des croyances chaldéennes, un esquisse des croyances chaldéennes, le réseau funèbre de Jean Sifilin, l'accusation de Michel Cellulaire, etc. Et enfin, une esquisse du commentaire sur la philosophie de Kadaïk. Donc ça, c'est tous les passages qui viennent de Psellos. Et il y a aussi un Michel Italicus, la lettre 17. Donc, il y a en anglais « The Chaldean Oracles », mais en fait, c'est une traduction du Père Desplaces.
Oui, c'est une traduction de Desplaces et le commentaire oracle par oracle résume parfois les analyses de Hans Levy.
Exactement.
Alors, moi, je peux dire que je l'utilise en général, parce que Hans Levy est assez difficile à lire, à mesure que le livre est en réalité inachevé. Donc, il y a parfois une même question qui est traitée en plusieurs endroits différents. Ce qui est assez utile, c'est de partir au fond de la synopse que donne Ruth Majorczyk et à l'utiliser comme une sorte d'index pour rayonner dans le livre de Hans Levy.
Donc, ça, c'est la traduction anglaise. Une traduction espagnole par Garcia Bazán, qui est un spécialiste du gnosticisme. Je trouve que c'est intéressant son point de vue, mais, donc je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et il y a aussi la recension de Georges Chimiste Pléton sur les Soracadei, qui a été publiée par Madame Brigitte Tambrin-Trachquet, qui est vraiment important. Si j'ai le temps, je parlerai de Pléton, qui est un passage extraordinaire et qui a fait un usage très bizarre des Soracadei. Et enfin, il y a le père Safri qui a écrit un certain nombre d'articles sur les Soracadei qui ont été réunis dans ce recueil qui s'intitule « Recherche sur le néoplatonisme après le Platon ». Donc, je vous ai signalé trois ouvrages collectifs dans lesquels notamment Philippe a des articles. Un ouvrage collectif du Chaldaïque Oracle par Helmut Zeng et Michel Tardieu, Platonismus und Esoterik in byzantinischen Mittelalter, qui a été publié aussi par Zeng en 2011, et donc les oracles chaldaïques qui ont été publiés par Adrien de Serres, Lucia Sodelli et Zeng en 2014, et finalement Nebenformen des Platonismus, publié aussi par Zeng. Je reviendrai sur. Donc, ça, c'est les ouvrages collectifs dans lesquels vous pouvez trouver des articles. Des articles très récents sur les Soracadei. Et enfin, donc, un certain nombre de textes sur les oracles chaldaïques. Donc, le plus important, c'est le livre de Helmut Zeng, Les oracles chaldaïques. C'était une série de conférences données dans le cadre de ton séminaire.
Oui.
Et donc, je pense que pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus clair et de mieux structuré. La différence fondamentale entre ma position et celle de Zeng, c'est que pour lui, il faut être. Il essaie de reconstituer un état des oracles qui soit antérieur, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, antérieur à l'interprétation néoplatonicienne. En ce qui me concerne, je suis très très sceptique. Tout simplement parce que je pense que comme 98% des fragments viennent des néoplatoniciens, les néoplatoniciens sont essentiels pour comprendre les oracles. Même, et ça je l'admets parfaitement, si leur position est totalement biaisée. il suffit quand même d'extraire du système néoplatonicien les fragments des oracles chaldaïques pour, selon moi, trouver quand même l'essentiel de ces oracles chaldaïques. Et donc, vous avez un certain nombre d'articles, donc un certain nombre d'articles de moi sur les oracles et deux articles de Philippe sur les oracles. Donc ça, c'est pour la bibliographie. Maintenant, on passe aux oracles chaldaïques en tant que tel. Donc, je vais d'abord présenter les auteurs et vous verrez que c'est quelque chose de spécial. Et ensuite, le contenu des oracles. Donc, les auteurs, traditionnellement, ont fait remonter l'origine des oracles chaldaïques à deux chaldaïoï. Et vous allez voir que c'est, là aussi, ce n'est pas évident. À deux chaldaïoï, c'est-à-dire à deux magiciens, à l'époque, chaldaïoï signifiait magicien, du nom de Julien, qui vivait sous Marc Aurèle. Donc, c'est au IIe siècle, Marc Aurèle régnait de 161 à 180, et qui évoque la Souda. À Julien Pierre, à Julien Père, que l'on qualifie aussi de philosophe, est attribué un ouvrage sur les démons. À Julien Fils, dont son père avait fait un médium et que l'on qualifie de théurge, sont attribués des ouvrages consacrés à la théurgie, théurgica, aux initiations, telestica, ainsi que des oracles, logia, en vers, probablement les oracles chaldaïques. Et qui consistait en des révélations sur la doctrine exposée par Platon dans le Timée, surtout, et obtenue grâce au procédé de la théurgie par Julien, après sa formation par son père. À l'époque des deux Julien, le Timée était interprété dans un contexte médio-platonicien. Donc, une seconde. Donc, je vais lire les textes théant. Et donc, je vous ai aussi donné sur une page une chronologie. Donc, le premier texte est un texte de la Souda. La Souda, c'était en gros la Wikipédia du monde byzantin. Donc c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant, parce qu'on a des informations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, mais c'est vraiment discutable. Il faut faire vraiment très très attention. Donc là, on a dans la Souda deux notices concernant les Juliens. Donc la première notice, donc c'est dans l'édition, la grande édition de Ada Adler, c'est la meilleure édition qui existe. Julien, chaldéen, philosophe, père du Julien, surnommé Théurge. Il a écrit un ouvrage sur les démons en quatre livres. Pour les hommes, il y a une amulette correspondant à chaque partie du corps, comme par exemple les amulettes théurgiques, télésiurgiques, cadaïques. Donc on voit que ce Julien, le père, qui est considéré comme un philosophe, est aussi un magicien, quelqu'un qui fait de la magie et qui ça baisse son emploi. Et donc on a une autre notice. Julien, fils du précédent, a vécu sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Il a écrit aussi des théurgica, des telestica et des logia en vers et tous les autres secrets de cette science. C'est celui-là, dit un jour, c'est celui-là. Dit-on, j'ai oublié le mot, c'est celui-là, dit-on, un jour que les Romains mouraient de soif, subitement fit produire des nuages, se lever une tempête, tomber une pluie violente avec des coups de tonnerre accompagnés d'éclairs, et cela, Julien l'accomplit par le moyen d'un certain savoir. Donc encore une fois, on voit que c'est un magicien. Donc c'est le sens de chaldaïoï, magicien. Et donc, on a une description un peu plus complète chez Psellus.
Je t'interromps. Oui. On a aussi une illustration de cet épisode. Sur la colonne aurélienne à Rome,
exactement,
il y a une illustration des pluies miraculeuses ayant accompagné la campagne de Marc Aurèle.
Oui, oui. Non, ça c'est vrai. Mais c'est vraiment très très intéressant. La question étant de savoir si c'est vraiment lui qui a déclenché ces pluies. Donc, c'est effectivement, c'est, on a cette illustration qui. Et donc, dans Psellus, dans la chaîne d'or, dans un petit traité qui s'appelle La chaîne d'or, on trouve cette notice extrêmement. Enfin, ce passage extrêmement intéressant. Et donc, il parle de différentes choses. Et encore, les deux Julien, sous le règne de Marc Aurèle, Julien l'Ancien et Julien le Jeune. Sur Julien le Jeune, en bref, voici la niaiserie. Bon, Psellus, il était patriarche, donc il était chrétien, mais il s'intéressait beaucoup, beaucoup aux arts chaldaïques et à ce genre de littérature. Et donc, il est obligé de nous dire que c'est stupide, mais ça l'intéressait beaucoup. Donc, en bref, voici la niaiserie que l'on voit répétant. Et ça, c'est très intéressant. Son père, sur le point de l'engendrer, demanda à celui qui embrasse toutes choses, c'est le père dans les oracles chaldaïques, une âme archangélique pour l'être de son fils. Après l'avoir engendré, il le mit en contact avec les dieux, avec tous les dieux, et l'âme de Platon, qui vit dans la société d'Apollon et d'Hermès. Il l'éleva à l'épopthie de l'âme de Platon pour pouvoir l'interroger sur ce qu'il voulait, mais cela s'élevit. Donc, encore une fois, Psellus, patriarche chrétien, est obligé de dire que c'est ridicule. Mais donc, vous voyez, donc on est au IIe siècle, et donc on a deux Kaldayoi, deux magiciens, et donc le père demande pour son fils une âme archangélique. Je vous renvoie à la page 5 de votre exemplier où il y a la correspondance. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est le numéro 10 sur la colonne de gauche. Et donc il s'agit des âmes supérieures, donc des âmes qui sont juste sous les différents dieux. Et le premier type d'ange, c'est les archanges, ensuite les anges, les démons et les héros. Et donc, comme vous le voyez, Julien le Père demande au Dieu, pour l'âme de son fils, qu'elle se trouve juste à la limite du monde des dieux. Et donc, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Donc, on a Julien le Père qui demande à son fils d'interroger Platon sur le Timon, et donc le fils répond, et donc sur une interprétation qui est une interprétation moyenne platonicienne du Timon, comme vous le verrez, donc ce n'est pas le Timon en tant que tel, mais c'est une interprétation médio-platonicienne du Timon. Donc le fils raconte le Timon dans l'interprétation médio-platonicienne, et ce qui est fondamental, et vous le verrez dans les textes qui vont suivre, le Timon est exprimé dans un langage, en hexamètre dactylique, premièrement, et deuxièmement, dans le langage de l'Iliade. Et donc, vous allez avoir plein de trucs militaires, c'est-à-dire l'intellect est revêtu d'une armure, on tire des flèches avec trois points, etc. C'est incroyable. Donc ça, c'est pour les Juliens qui sont des Kaldayoi, c'est-à-dire des magiciens. Mais le père Saffré, dans un des articles que vous avez dans le recueil, a trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant qui se trouve dans le commentaire de Proclus sur la Parménide, au livre 7, qui ne nous est pas parvenu que par la traduction qu'on a donnée Guillaume de Mouerbeek. Guillaume de Mouerbeek, Guillaume de Mouerbeek, il est du 13e, il a vécu entre 1215 et 1286. Et il était archevêque de Corinthe, archevêque latin de Corinthe. Et donc, Guillaume de Mouerbeek a traduit le commentaire sur le Parménide de Proclus, et il va beaucoup plus loin que ce qui nous en reste en grec. Mais Carlo Stehl, dans le troisième tome de son édition du commentaire sur la Parménide, nous cite la version latine et la rétroversion en grec. Et je vais vous lire, et donc là, on pourrait penser que ces Juliens étaient quand même des Syriens. Et donc, ce qu'on lit chez Proclus, dans le commentaire sur la Parménide, Livre 7, la partie qui manque, vous allez voir, je vous ai donné la référence d'Angetale. On dit ceci. Les dieux donc qui savent ce qu'ils doivent faire tendent aussi vers l'un de là-bas par l'un qui est en eux-mêmes. Quant aux révélations théologiques elles-mêmes des véritables théologiens, elles nous sont transmises au sujet du premier cette même doctrine, puisqu'ils l'appellent dans leur façon de parler ad, ce qui veut dire un pour eux, comme le traduisent ceux qui connaissent leur langue, et puisqu'ils l'appellent l'intellect créateur du monde en redoublant ce vocable et en disant qu'il est le très célèbre adados, et ils ne disent pas qu'il vient immédiatement après l'un, mais ils le posent comme correspondant à Adam. En effet, ce que celui-ci est par rapport aux intelligibles, celui-là l'est par rapport aux visibles, c'est pourquoi le premier est appelé par eux seulement Ad, le second Adados, en redoublant le mot un. Et donc, c'est une référence au dieu syrien Adad. Et donc, on peut penser qu'effectivement, il s'agissait de gens qui étaient des magiciens, mais qui pouvaient avoir des racines syriennes. Voilà. Donc, ça, c'est pour les auteurs. Pour le contenu. Le contenu correspond à ce qu'on trouve dans le moyen platonisme. Pour les médios platoniciens, comme je l'ai dit, c'est un courant qui se développe au début de l'ère chrétienne, on retrouve trois principes. Donc l'idée fondamentale, et c'est intéressant de voir comment la société a été imprégnée de cette idée, l'idée fondamentale, c'est de mettre Dieu au principe. Donc le problème avec Platon est le suivant, c'est-à-dire que pour Platon, Dieu n'est pas au sommet. Au sommet, il y a les formes intelligibles. Ensuite, il y a la divinité sous toutes ses formes. Et puis, finalement, il y a les hommes. Et donc, ce qu'on trouve dans le médioplatonisme, c'est trois principes. Donc, Dieu, le modèle et la matière. Mais si on met Dieu au point de départ, et non pas les formes intelligibles, c'est que les formes deviennent les pensées de Dieu. Et donc, on a une priorité absolue de la divinité, dont les formes sont les pensées. C'est ce qu'on va retrouver dans les oracles chaldéiques. Donc, dans les oracles chaldéiques, on retrouve donc une division la réalité dans son ensemble en trois mondes emboîtés. Il y a le monde du feu, qui est celui de l'intelligible uniquement, et dans ce monde règne les dieux, et séjourne le premier dieu, le père. Ensuite, il y a le monde éthéré, qui est un mélange de feu et d'air, et qui comprend les corps célestes, et notamment la lune et le soleil. Et enfin, il y a le monde matériel dans lequel on vit. Mais ces trois mondes sont structurés en fonction de trois principes mis en avant par le médioplatonisme, c'est-à-dire, et vous pouvez suivre sur votre écran publié à la première page, hein. Donc les oracles chaldéiques, principe. Donc il y a dans les oracles chaldéiques, donc une référence aux trois principes du médio-platonisme. Donc, on regarde d'abord le premier principe, c'est-à-dire Dieu. Ce premier principe, il est triple. Et donc, il y a deux divinités masculines et une divinité féminine entre les deux. Et donc, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir dans un des textes. Donc, le premier dieu, il s'appelle le Père. La figure du Père, donc, est contradictoire. D'un côté, il est complètement séparé du monde, quasiment inconnaissable. On le nomme monde caché, abîme paternel, etc., etc. Mais dans le même temps, il reçoit une série d'attributs positifs comme père, intellect paternel, source, monade, etc. À côté de ce premier intellect, il y en a un second, et qui est le démiurge, et qui a pour rôle de produire le monde sensible. Donc, comme vous le voyez sur votre exemplier, donc il y a le Père et ensuite Zeus qui va être le démiurge fabriquant le monde sensible. Donc le second dieu projette des divisions ou des éclairs dans les seins de l'âme du monde, dans la matière, qui est le troisième principe. Et entre ces dieux, on trouve une troisième entité divine, une divinité féminine, souvent identifiée à Hécate. Voilà pourquoi elle est qualifiée de centre intermédiaire et son action est double. Elle dissocie et elle associe. Elle tient séparé le Père, qui est le premier intellect, et le Zeus, qui est le second intellect, et elle les associe, puisque, comme on va le voir, c'est elle qui reçoit les pensées du Père et qui les transmet à Zeus et son fils. Donc c'est cette triade en quoi consiste le dieu qui se trouve associé à plusieurs autres divinités importantes qui ont pour rôle de rendre compte de l'action divine à différents niveaux de la réalité. Donc encore une fois, je répète, donc vous avez trois, en Dieu, vous avez trois entités. La première, le Père, et la troisième, Zeus, qui est le démiurge. Et entre les deux, vous avez les quatre, qui est une entité féminine. Elle reçoit les pensées du Père et elle les transmet à Zeus pour qu'il puisse fabriquer le monde. Donc, pour compliquer plus ou moins les choses, donc on se retrouve avec le modèle qui est le monde des pensées du Père. Donc, les intelligibles deviennent les pensées du premier Dieu. Et donc là, on plonge en pleine magie, puisque on retrouve une interprétation des formes intelligibles sous le modèle d'une représentation magique. En effet, les Chaldéens présentent les formes intelligibles comme des Jungiens. Zeng n'est pas très d'accord avec ça parce qu'il estime qu'on n'a pas assez de témoignages, mais je pense que c'est très important. Le terme Jung est un substantif féminin qui désigne au sens propre un oiseau grimpeur au cou si flexible qui donne l'impression de pouvoir faire une rotation sur lui-même sur 360 degrés. C'est le torcol. Dans la magie amoureuse, on attachait cet oiseau sur une roue pour ramener les partenaires infidèles. Le terme en vint alors, dans le monde hellénistique, à signifier la force liante de l'amour dans le cadre d'une magie amoureuse. Et donc, c'est l'importance des roses dans les oracles chaldéens.
Dans les oracles de Théocrite.
Pardon?
Le poème de Théocrite.
C'est ça, oui. Encore une fois, je n'ai pas le temps de tout dire, mais c'est... Donc, dans les oracles, Jung est le nom d'êtres divins dotés de puissances diverses. Les yinges sont présentés comme les pensées et les œuvres du Père. c'est dans le fragment 77. Ce sont donc, dans une perspective médio-platonicienne, les formes dont on sait que, pour les Chaldéens, elles servent à maintenir l'univers. Si elles sont appelées messagères, il faut entendre par là qu'elles servent d'intermédiaire entre le Père et la matière, et qu'elles sont donc identifiées aux formes divines qui informent la matière. Elles sont même identifiées donc aux roues magiques. Ça aussi, bon, c'est parce que toute la mythologie chaldéenne est reliée à la théurgie, et donc reliée à des procédures magiques. Donc associée à ces yinches, donc associée aux formes intelligibles, on a des entités qui s'appellent les assembleurs ou les mainteneurs, en grec synokeis, et je pense qu'il s'agit d'une personnification de la participation. C'est donc la force liante des yinches est mise en œuvre par les assembleurs ou les mainteneurs. Et dans un autre sens, donc on a les yinches qui sont des oiseaux de feu qui descendent pour permettre de fabriquer les armes et de fabriquer les corps, et donc ça, et qui maintiennent assemblés les âmes et les corps. Et on a les télétaques, c'est un autre type, d'autres entités divines, les télétaques, c'est-à-dire en grec les maîtres de l'initiation. Donc on a les formes qui sont participées par le sensible, et on peut, l'âme peut remonter vers l'intelligible par l'intermédiaire des télétaques. Donc là, j'essaie de rendre les choses très très claires. Donc on a un dieu, enfin on a un monde divin qui comprend trois divinités, le Père, Hécate et Zeus. Les formes intelligibles sont les pensées du Père. Et ces pensées sont décrites comme des oiseaux de feu, les yinches, qui vont permettre fabriquer le reste de la réalité. Et ces yinches donc, sont assistés par les mainteneurs qui rendent compte de la participation, et par les maîtres de l'initiation qui permettent à l'âme de remonter vers l'intelligible. Et donc, Hécate, entre le Père et Zeus, joue le rôle d'intermédiaire. Elle reçoit les pensées du Père, elle les transmet à Zeus, qui est son rejeton. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu compliqué, mais l'idée fondamentale derrière tout ça, c'est que les concepts philosophiques platoniciens sont personnifiés. Ça devient élément philosophique devient un personnage dans une grande pièce de théâtre. Donc voilà pour le monde divin. Donc on a Zeus, je me suis arrêté là, Zeus qui est le démiurge et qui va fabriquer l'âme du monde et le corps, qui va fabriquer les âmes et les corps. En fait, dire que Zeus fabrique l'âme du monde, c'est faux. C'est faux d'un point de vue purement technique, puisque c'est une grande innovation du moyen platoniste. Le démiurge ne fabrique pas de l'âme du monde. Le démiurge met en ordre les mouvements désordonnés qui agitent la matière. Et donc, on va le voir dans un des textes que je vais lire. Donc, Zeus va mettre en ordre le monde de la matière que les médio-platoniciens estiment mise en mouvement par une âme irrationnelle. En d'autres termes, ce que Dieu va faire, il va rendre rationnelle une âme irrationnelle. Et ensuite, donc, on va avoir la représentation de l'âme humaine comme une étincelle de feu intelligible. Comme une étincelle de feu intelligible. Et donc, dans la littérature grecque, chaque fois qu'on entend parler de l'âme comme étincelle, donc je pense qu'il y a un rapport avec le monde, qui a un rapport avec le monde des Chaldéens. Et enfin, il y a, donc on a la matière qui n'est qu'un support et les corps qui sont en quelque sorte qui sont les récepteurs du feu qui vient du Père. Donc, comme vous le voyez, je sais que c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est vraiment très très intéressant. Donc, on a un monde philosophique qui est celui de Platon, avec des formes intelligibles, la divinité, l'âme et le corps, et dans Timée, la Cora, et tout de suite après la mort de Platon, là, il est. Donc, il faut se représenter les choses comme ceci, c'est-à-dire que on a l'intelligible qui vient du Père. Cet intelligible est associé à un feu. C'est un peu comme si on se trouvait devant un volcan. Ce feu coule le long des flancs du volcan dans des canaux qui, au pied du volcan, dans la plaine, vont se solidifier et vont expliquer la fabrication, qui vont expliquer les corps sensibles. Donc les corps sensibles, c'est une espèce de solidification de ce feu qui jaillit du Père, ce feu intelligible qui jaillit du Père. Je trouve que donc, la représentation picturale est vraiment très belle. Et à côté de ça, on a donc les formes intelligibles qui sont assimilées à des oiseaux de feu, mais on verra que c'est un peu différent dans les textes que je vais vous lire. Et on a l'âme humaine qui est une étincelle qui se détache du feu qui coule du volcan. Et donc, une hypothèse que l'on peut faire, c'est que si on associe l'intelligible au feu, moi je pense qu'on peut voir là une influence du stoïcisme pour lequel le logos, la divinité, était associé à un feu un feu démiurgique. Donc, je le répète, dans les sorats chaldaïques, on a le système platonicien qui est représenté comme dans une pièce de théâtre par un certain nombre de personnages. Par ailleurs, on a cette représentation picturale d'un volcan d'où vient découler de lave qui, dans la plaine, vont permettre d'expliquer qui vont permettre de rendre compte des choses sensibles. Donc là, je vais vous lire quatre textes qu'on trouve dans les sorats chaldaïques, et je vais essayer de vous montrer comment tout cela correspond à ce que je viens de dire, très maladroitement, parce que je dois dire tellement de choses en si peu de temps que ce n'est pas évident. Donc je vais essayer d'illustrer à partir des textes. C'est le texte numéro 3. Donc vous avez la traduction et vous avez le grec. Je vous ai mis le grec parce que quelquefois je vais faire référence au grec pour vous montrer à quel point c'est inspiré par, à quel point l'Iliade est prise en considération. Donc on prend le premier texte. Donc, nous, patros, l'intellect du Père, héroïsesse, avrombi, ça fait bizarre, mais on verra pourquoi. Non essas, acmadi, boulet, quand, par un acte de volonté sublime, il a pensé. Donc il a pensé quoi? Donc, pam morphos ideas, les idées qui revêtent toutes les formes, peges des mias, apopassai, exitoron, mais qui toutes, d'une seule et unique source, jaillissent. Patroten gar en boulet, tételosté, car c'est du Père que viennent, comme on le sait, décision et achèvement. Et donc là, dans ces premiers vers, on a une référence au Père dont les formes sont les pensées. Pas emeristesan noero puri, moi reteisai eis alas noeras. Mais elles furent séparées par un feu intellectif. Je pense qu'il s'agit là du troisième dieu, c'est-à-dire le Zeus, qui est démiurge. Et donc on va voir comment il procède. Mais elles furent séparées par un feu intellectif. Mais elles furent séparées par un feu intellectif pour faire dans le but de faire apparaître d'autres réalités intellectives.
C'est d'autres idées, d'autres formes intellectives.
Pardon?
Et c'est alas noeras ideas.
Oui, mais justement, j'ai hésité là à traduire par idée. Mais,
je pense que c'est ça, c'est un féminin pluriel.
Oui, non, mais c'est évidemment ça. Mais c'est parce que ça pose un problème d'interprétation.
Et, oui.
Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de biaiser un peu. Et donc, c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle j'ai traduit ainsi. Mais toi, tu as, oui, Eisalais, Noeras, oui, c'est parce que tu prends pour acquis qu'il y a Ideais.
Dans le contexte, je ne vois pas ce que ça pourrait. Puisque Emeristesan a. Pour sujet de toute évidence, les idéaux dont il est question au vers 2. Eis allas noeras, ça ne peut représenter que des idéaux.
Mais encore une fois, ça me posait des problèmes d'interprétation, comme je n'ai pas le temps. Cosmo garanax. Polymorpho pro-utéken, donc car à notre monde aux aspects variés, le souverain a fait préexister, et donc a fait préexister, noeron tupon astiton, a fait préexister un modèle intellectif impérissable. Où Cat acosmon, hypnos, epigomenos, grâce auquel, alors qu'il suivait une trace dépourvue d'ordre, donc ça c'est notre monde avant l'intervention du démiurge, est sujet à un mouvement désordonné que le démiurge va mettre en ordre. Donc, ce monde donc, qui suivait une trace dépourvue d'ordre, Morphès, Méta, Cosmos et Phantè, ce monde qui était qui suivait une trace dépourvue d'ordre, est apparu pourvu d'une forme. Et donc là, Pantoiais, Ideais, Kikarasmenos, comme une œuvre d'art ciselée à l'aide d'idées de toute espèce, donc Oun Mia Pegue, qui viennent d'une seule source, Ex es roizuntai, dont jaillissent en vrombissant, mérismenai allai aplatoi, d'autres idées divisées qui, avec fracas, s'abattent sur les corps qui se trouvent dans le monde. Donc, regnumenai cosmou perisomassim. Donc, là, on a, me semble-t-il, donc, dans les premiers trois vers, on a la description de la production des idées par le Père. Dans le second, dans les vers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a la description de l'ouvrage opéré par le démiurge qui donc va mettre en ordre un monde qui est agité d'un mouvement désordonné, et il va agir en utilisant les idées qui viennent du Père et qui sortent de lui en vrombissant. Et on va voir que c'est celui d'un essaim d'abeille. Et donc là, on ne parle plus d'oiseaux de feu, mais on parle d'abeilles. Donc, c'est idéal. Pericolpus smerdaleus foriuntai, elles viennent se nicher en des seins. Elles viennent se nicher en des seins terribles, en des seins terribles, Smerdaleus, Smenesin eoikiai, pareil à des essaims d'abeilles. Donc les idéaï sont assimilés à des essaims d'abeilles. Et c'est pour ça qu'on a le terme vrombir dès le premier vers. Et donc là, moi je pense que c'est une description des quatre. C'est-à-dire qu'il y a les abeilles qui jaillissent du père et qui viennent se nicher dans le sein des quatre. Et ensuite, Hécate va les transmettre à Zeus. Trapoussai, Périamphi, Paraskédon, Allidis, Allais, le vers est très beau, hein, virevoltant de ci, de là et de toutes les manières. Et là, on voit très bien que les formes sont les pensées du Père. Ennoiai, Noerai, Pegues, Patrikes, Apu, ces pensées intellectives qui proviennent de la source paternelle. Donc ça, c'est mon... c'est mon qui provient de la source... oui, paternelle. Pardon ? Donc, qui proviennent de la source paternelle. Et ça continue, donc, « Pollu dreptomenai, kuros antos, akoi metu, chronou, akme. » ces abeilles ne cessent de butiner la fleur de l'intellect qui se trouve au sommet du temps sans repos. Et donc, ce fragment se termine. Arche gonus ideas, prote patros, ebusse, tas de autoteles, pege. Ces idées dont dépend toute la génération, c'est la source qu'est le Père qui les a fait jaillir, source primordiale et parfaite. Donc, vous voyez la difficulté de traduire et de comprendre ce que les oracles signifient, mais je pense que dans ce premier texte qui est assez clair, on voit assez bien les distinctions entre donc, le Père, dont les idées sortent comme des essaims d'abeilles. Ces essaims d'abeilles sont utilisés par le démiurge pour mettre en ordre le sensible, et ces essaims d'abeilles, avant d'être utilisés par le démiurge, vont se nicher dans le sein des câbles, qui les fera passer en douce. Donc, comme vous le voyez, c'est une façon un peu bizarre de voir les choses, mais je pense que ça reste très intéressant. Donc là, on a, dans le texte 3, on a la description de la divinité, et dans le texte 4, on va avoir la description de l'intelligible. Donc, texte 4. Esti garti noeton. Il y a en effet un intelligible. Ô cré des noeng, nou antei, qu'il te faut intelliger par la fleur de l'intellect. En gard, épé, clines, sunnous, car si tu inclines vers lui ton intellect, Kakeino no essays, os si nouron, et si tu cherches à l'intelliger comme quelque chose de déterminé, ou Kakeino no essays, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Esti ya alkes amphiphaus dynanis noerais straptusa tomaisin. Car d'une force au double regard, il est la puissance qui est resplendie par ses tranchants intellectifs. Ou décret sfodrotetinoen. Ce n'est donc pas par un effort grossier qu'il faut chercher à voir cet intelligible. Allah nous tanaou tanae flugi, mais par la lumière tendue d'un intellect tendu. Par la lumière tendue d'un intellect tendu, Panta metrousse pleine, tout nous étonne et qui mesure, lequel mesure tout sauf cet intelligible. Creo de tuto no esai hoc athenos, il ne faut certes pas chercher à voir cet intelligible par un effort violent. Al agnon apostrophon omma ferunta ses psuches, mais en portant vers l'intelligible le regard pur qui s'est détourné, le regard pur de ton âme qui s'est détourné du sensible, tainai kenion noon eistu noeton, mais il faut tendre ton intellect vide vers l'intelligible. Omfra ofra mates ta noeton et pei noon exo du parquet. Jusqu'à ce que tu reconnaisses l'intelligible, car c'est hors de l'intellect qu'il subsiste. Donc, dans ce deuxième texte, on a une description de ce que les oracadaïques entendent par intellection. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on c'est comme le maître qui parle à son disciple, et donc c'est la raison pour laquelle on a la deuxième personne singulier. Et donc l'idée fondamentale, c'est justement que pour arriver à contempler l'intelligible, il faut mettre en retrait le sensible. Encore une fois, dans une perspective platonicienne, ça n'est pas quelque chose de particulièrement exceptionnel. Mais c'est intéressant de voir comment on essaie de présenter une doctrine philosophique en termes poétiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que on s'aperçoit que dans ce texte, on trouve hoc athénos. Et on trouve aussi Sfrodo Teti. Et ce sont des termes qui apparaissent lors du combat de Zeus contre les titans dans la Théogonie. Donc l'idée fondamentale, c'est qu'il faut repousser le sensible pour arriver à saisir l'intelligible. Et cette assaise, jusqu'à un certain point, est produite et illustrée à l'aide d'un passage d'Hésiode qui décrit le combat de Zeus contre les titans. Il faut repousser le sensible comme Zeus repousse les titans. Et pour arriver à une victoire totale.
Je voudrais vous demander, vous avez traduit dans ce passage « hoc athénos »
oui.
par « il ne faut pas d'efforts violents ».
Oui. Ce que j'ai pu, athénos, je pense...
Parce que le mot est présent... dans les quatre vers, il me semble Tanaou, Tanae,
oui.
Ensuite Teinai, juste après, mm-hmm. Et partout ailleurs, vous avez conservé l'idée de tension. Et
mm-hmm. Oui.
L'idée de... Ou caténos, en traduire ou caténos par il ne faut pas quelque chose de violent, c'est très intéressant. Mmh. Et, mais d'une certaine manière, il y avait quand même une unité, c'est-à-dire que.
Oui, oui bien sûr.
Spontanément, j'aurais plutôt. J'aurais plutôt maintenu l'idée du. D'abord, je me demande d'où vient cette idée de tension. Est-ce qu'elle est en rapport avec le tonos ou quelque chose comme ça.
Faudrait voir, mais faudrait que je retraduise ce texte.
Non, je suis très... Je crois qu'il y a une... Comme tout à l'heure, vous avez une intuition très précieuse, justement, parce que il y a une interprétation. Mmh. Et...
Non, parce que moi, ce que j'ai cru comprendre, hein, mais encore une fois, c'est tout à fait discutable, parce que c'est tellement difficile à traduire, c'était l'idée fondamentale que donc quand on contemplait l'intelligible, il n'y avait pas besoin de il n'y avait pas besoin de... Enfin, tout allait de soi, ça, c'était sans lutte, sans violence, sans tension. Pardon ?
Mais le vers suivant dit l'inverse.
Pardon ?
Il faut tendre ton intellect vide vers l'intelligible.
Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est justement, il ne faut pas chercher à voir cet intelligible par un effort violent. Oui. Je pense que c'est ça l'idée fondamentale. Oui. L'idée fondamentale, c'est que le sensible est perçu quelque chose qui est violent. Parce que dans le Timée de Platon, l'intelligible est considéré comme un flux violent qui dérègle les révolutions de l'âme et qui fait qu'on est dans l'erreur. Et donc, quand on va vers l'intelligible, on se détache de cette violence sensible pour aller vers quelque chose de pur et de simple. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Mais je suis prêt à en rediscuter parce que très honnêtement, j'ai fait mon possible.
Oui,
Et donc, je pense que c'est ça l'idée fondamentale ici, c'est cette distinction entre l'intelligible et le sensible. Le sensible qui se trouve du côté du flux, de la violence, de l'agressivité, et le sensible, l'intelligible qui est pur, qui est vide, c'est très important aussi, qui est vide, et se présente justement comme quelque chose d'immuable et d'éternel. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais vous avez parfaitement raison en insistant sur cette idée de tension qui revient très souvent dans les vers. Et moi, encore une fois, bon, je suis peut-être obsédé par le Timée, mais ce que je vois dans le Timée, c'est ceci. C'est-à-dire que quand les assistants du démiurge mettent l'âme dans le corps de l'homme, il y a toute une série de problèmes qui se posent parce que le flux des sensations, le flux de la nourriture dérègle les révolutions de l'âme et par voie de conséquence nous amène vers l'erreur. Et comme pour chez Platon, l'erreur doit être associée au mal, nous amène vers le mal. C'est comme ça que... Et donc, si vous le voulez bien, on va lire les deux. Bon, et donc, je pense que ce passage est inspiré justement de la lutte de Zeus contre les titans. Les titans qui sont présentés comme des gens violents, agressifs. Et on retrouve, c'est étrange, mais c'est comme ça. On retrouve donc les vers 655-663 de la Théogonie d'Hésiode. Et donc là, on va retrouver aussi des références à l'Iliade. Et donc c'est le texte numéro 5. Donc le texte numéro 5, Essaménon, Pantheukon, Acmen, Photos, Kélagontos, après avoir revêtu de pied en cap l'armure que constitue la lumière éclatante, Aite tri glutini non sicente opisanta. Donc, l'intellect de ton âme armé d'un trait à trois points. Pan triados suntema balen frini med epifoltan. Frappe dans ton esprit le mot de passe, je vais expliquer, de la triade. Pardon ? Oui, c'est
suntema.
Oui. Et donc, ne fréquente pas, med epifoitan, impuro iois, sporaden, oketois, alla stibaredon. Donc, après avoir revêtu donc, de pied en cap l'armure que constitue la lumière éclatante, l'intellect de ton âme, armé d'un trait à trois points, frappe dans ton esprit. Le symbole de la triade, j'ai traduit par le mot, et ne fréquente pas les canaux de feu en te dispersant, mais concentre-toi. Allah, Stibaredon. Donc, encore une fois, je pense que ça reprend la même idée qu'on retrouve dans le texte numéro 4. Comme vous le voyez, donc, pour contempler l'intelligible, c'est comme un combat, c'est comme le combat dans l'Iliade. On commence par mettre son armure, ensuite on prend une flèche ou une lance à trois pointes, et ce suntema, donc en grec c'est mot de passe, mais ça signifie aussi symbolon, le symbole. Et qu'est-ce que ça veut dire le symbole de la triade? C'est tout simplement les trois divinités, c'est-à-dire le Père, Hécate et Zeus. Et donc, pour y arriver, ne fréquente pas les canaux de feu en te dispersant, mais concentre-toi. Donc, les canaux de feu, je n'ai pas le temps de l'élaborer ici, mais l'idée fondamentale est la suivante, c'est-à-dire que le Père, donc fait jaillir le feu intelligible de lui-même, ce feu intelligible va envahir le monde par l'intermédiaire d'un tuyau, ou je ne sais pas, d'un conduit, d'un canal, qui passe par le centre des pôles, et donc qui va se diffuser dans le monde, et à la limite, lorsque ce feu va se coaguler, il va s'agir des choses sensibles. Et donc, comme vous le voyez, c'est cette idée du cratère dont on sort des coulées de lave, qui vont imbiber le monde et expliquer la production des choses sensibles. Et donc, c'est ce qu'on voit dans le dernier texte. Je vais m'arrêter là parce que ça doit commencer à être très difficile pour vous. Donc, Kai Pemton Meson Alla Putre Ocon. Il y a au milieu, en cinquième, un autre canal conducteur de feu. Enta kateisi mikri ulayoi oketon zoe forion. Puis, par où le feu, porteur de vie, descend jusqu'au canon matériel. Donc, comme vous le voyez, c'est une cosmologie qui est extrêmement... qui est illustré justement par cette idée du feu qui coule d'un volcan. Et si vous le voulez bien, j'ai encore un petit moment, je terminais donc. Par Proclus et par Psellus et Pléthon. Donc, comme le disait Philippe la dernière fois, ce qui nous étonne, c'est que si effectivement les oracles chaldaïques ont été produits au deuxième siècle de notre ère, sous Marc Aurèle, ils ne deviennent un texte canonique pour les néo-platoniciens que beaucoup plus tard, que deux siècles plus tard. Et donc, et c'est la raison pour laquelle je suis très réservé devant la critique de Lévy et de Zayn, suivant laquelle il faut chercher à retrouver une doctrine chaldaïque pure, débarrassée de son interprétation néo-platonicienne. Parce que pratiquement tous nos fragments, presque tous nos fragments, bon, je disais 98-95% de nos fragments viennent des néo-platoniciens. Et pour vous faire comprendre l'importance des oracles chaldaïques dans l'école néo-platonicienne, je lis cet extrait de la vie de Proclus par Marinus. Voilà les vertus que
Proclus.
Pardon ?
C'est le T2 ?
C'est le T2, oui. Voilà les vertus que Proclus pratiquait alors qu'il suivait encore les cours du philosophe Syrianus, son maître, et qu'il étudiait de près tous les ouvrages des anciens. En revanche de la théologie orphique et de la théologie chaldaïque, il n'avait reçu de son professeur que quelques éléments et pour ainsi dire de simples semences, car il n'était pas parvenu à étudier avec lui les poèmes orphiques. Aussi, il n'avait pas réussi à étudier avec lui les poèmes orphiques aussi. Syrianus, en effet, s'était proposé de leur expliquer, à lui et à Dominus, je ne sais pas si vous savez, si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai lu le passage concernant cette opposition. Donc, Syrianus, en effet, s'était proposé de leur expliquer à lui et à Dominus, le philosophe syrien, ou l'un ou l'autre, ou les poèmes d'Orphée, ou les oracles, et il leur avait laissé le choix entre les deux. Mais comme ils n'étaient pas tombés d'accord et qu'ils n'avaient pas choisi tous les deux le même texte, Dominus choisissant les poèmes d'Orphée, notre héros, c'est-à-dire Proclus, les oracles, le grand Syrianus ne put le faire à cause de ce désaccord et aussi parce qu'il ne survécut que peu de temps. Proclus n'avait donc reçu de son maître, comme je viens de le dire, que le point de départ pour cette étude. Mais après la mort de Syrianus, il lut soigneusement les commentaires de ce philosophe sur Orphée, les immenses commentaires de Porphyre et de Jean Blic sur les oracles et les écrits des Chaldéens qui s'y rattachent. Il se nourrit enfin des divins oracles humains, et ainsi s'éleva jusqu'au plus haut des vertus accessibles à l'âme humaine, celle que Jean Blic, l'inspiré des dieux, a excellemment nommée théophique. Il rassembla les exégèses des philosophes, ses prédécesseurs, et les élabora en y appliquant un examen critique convenable. Il mit par écrit diverses compositions sur les sujets chaldaïques, et en particulier ses commentaires suprêmement importants sur les oracles transmis par les dieux. Tout cela lui prit 5 années entières. Après quoi, il eut aussi le songe divin que voilà. Il vit en rêve lui apparaître le grand Plutarque, c'est Plutarque d'Athènes, celui qui a fondé l'école néoplatonicienne d'Athènes, qui lui annonçait qu'il vivrait autant d'années qu'il y avait de quaternions dans son ouvrage sur les oracles. Un quaternion, c'est donc une feuille découpée en quatre, et et donc ça correspond à 16 pages de codex. Qu'il vivrait autant d'années qu'il y avait de quaternions dans son ouvrage sur les oracles. Et après les avoir comptés, Proclus trouva qu'il y en avait 70. Alors vous imaginez, l'ouvrage, ça fait 70 fois 16, ça fait 1120 pages. Que ce songe fut venu des dieux, son accomplissement à la fin de la vie de Proclus l'a fait connaître. Car bien qu'il ait vécu, comme nous l'avons dit plus haut, 5 années en plus des 70 années annoncées, néanmoins, dans ces 5 dernières années, il n'avait plus de force. c'est un tour de passe-passe qu'on retrouve chez la vie de Plotin par Porphyre. Et donc, la vie se termine par ces lignes. Il avait accoutumé, c'est Proclus qui parle, on parle de Proclus, il avait accoutumé de dire, souvent, si j'étais le maître de tous les livres des anciens, je ne laisserais en circulation que les oracles et le timet, et je priverais les hommes de ce don de tous les autres, car parmi ceux qui les lisent au hasard, et sans les examiner à fond, il en est qui en éprouve du dommage.
Oh,
pardon? Donc, c'est assez violent comme référence. Et donc.
C'est très vrai comme expérience.
Pardon?
C'est une très profonde expérience, il me semble.
C'est ça.
Parce qu'il n'a pas dit qu'il le ferait effectivement.
Non.
Cette parole est laissée. Une expression très spirituelle.
Donc, je voudrais terminer en expliquant pourquoi on a complètement perdu cet ouvrage gigantesque. Donc, les ouvrages attribués à Proclus sur le commentaire aux Orphiques, l'accord entre Pythagore, Orphée, les oracles chaldaïques, et cet ouvrage gigantesque le commentaire sur les oracles chaldaïques, il semble que Psellos, qui était aussi patriarche entre 1018 et 1082, il les connaissait parce qu'il les cite très souvent dans ses. Parce qu'il en fait, il fait référence souvent dans ses ouvrages, dont certains viennent de faire une excellente réédition, d'être l'objet d'une excellente réédition par Homéra. Et donc, Psellus a rédigé plusieurs notices sur les Chaldéens et a conservé une collection de fragments. Donc, le commentaire qu'il compose sur ces oracles chaldaïques cherche à concilier néoplatonisme et christianisme, mais dans le monde byzantin. Et donc, comme il était patriarche, ça ne lui a pas posé de problème. En revanche, Jean Italos, son disciple le plus éminent, et qui succède à Psellos en 1055 dans la charge de consul des philosophes, mais une vingtaine d'années plus tard, vers 1076-1077, 10 positions furent condamnées par un synode sans qu'Italos ne soit nommé. Mais le 13 mars 1082, dimanche de l'orthodoxie, la doctrine d'Italos condamnée à 11 articles fut anathémisée en présence du professeur coupable. À la suite de ces anathèmes, on interdit à Italos tout enseignement public ou privé et il fut relégué dans un monastère. À l'occasion, furent brûlés plusieurs livres et on peut penser que furent brûlés les ouvrages de Proclus. Et donc, voilà. Plus de deux siècles plus tard, Platon, qui est un personnage important dans le monde byzantin, Platon va s'emparer des oracles qu'il rassemble dans une collection intitulée « Oracles magiques des mages de la tradition de Zoroastre ». Je l'ai cité dans la bibliographie. Pour en faire le pilier principal de tout son système philosophique. Désormais, attribué aux mages, donc quand vous lisez chez Platon ou chez Marcille Picin le nom de Zoroastre, ça fait référence aux oracles chaldaïques, tout simplement parce qu'à partir de Platon, on attribue les oracles chaldaïques, on fait remonter les oracles chaldaïques à Zoroastre, et donc on fait remonter les oracles chaldaïques au monde avestique. Et donc ça, c'est-à-dire aux disciples de Zoroastre et non plus aux deux Juliens, et entièrement décapés de toute interprétation christianisante. Donc Platon, c'est très intéressant, donc il refuse que les auteurs, ça soit les Juliens, pour lui c'est Zoroastre, et il va enlever toutes les interprétations chrétiennes que Psellos avait proposé de différents oracles. Et donc les oracles sont promus à une place exceptionnelle puisqu'ils deviennent l'écriture de référence ultime de tous les hellénismes en cours de restauration. C'est à la lumière de ce texte, à la fois révélé et rationnel, que sera jugée la validité de telle ou telle thèse philosophique. Là, je fais une référence aux polémiques avec Michel Tardieu, qui estime que Platon n'a pas connu les oracles chaldaïques par l'intermédiaire de Psellus, mais par l'intermédiaire d'un juif qui vivait auprès du calife. Et donc, bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas entrer là-dedans. Et donc, chimiste Platon, comme c'était un personnage bizarroïde, qui était anti-chrétien, a été exilé par l'empereur et s'est établi à Mystra, dans le Péloponnèse, où il a fondé une espèce de république qui a duré assez longtemps. Et donc, ce Platon jouera un rôle considérable au cours du concile de Florence et de Ferrare. Donc, alors que Scholarios voulait l'union entre l'Orient et l'Occident, Platon voulait rester séparé. C'est Platon qui a la langue à gagner. Et donc, je vous renvoie, je vais beaucoup trop vite pour avoir quelques questions, mais je vous renvoie à la chronologie que j'ai mis sur la première page. Et donc, comme vous le voyez, donc, Platon a vécu de 1355 à... de 1368 à 1452. Scholarios, qui était donc aussi quelqu'un d'important et qui était plutôt qui est un admirateur de Thomas d'Aquin, donc entre 1400 et 1473, et le concile de Ferrare, Florence, eut lieu entre 1438 et 1445. Et donc Marcel Ficin, lui, a vécu entre 1433 et 1499. Donc, comme vous le voyez, cette affaire des oracles chaldaïques, c'est quelque chose d'extrêmement bizarre, une interprétation poétisante, mantique du Timée de Platon à partir du IIe siècle, mais au fil de l'histoire, par l'intermédiaire de Proclus notamment et des néoplatoniciens, ça devient un texte fondamental, une espèce de texte canonique pour l'école néoplatonicienne d'Athènes. Et comme vous l'avez expliqué la dernière fois, vous pouvez trouver la structure du système sur la colonne de gauche de la dernière feuille, avec les correspondances chaldaïques sur la deuxième, sur la colonne du milieu, et les correspondances orphiques sur la colonne de droite. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que je ne sais pas ce qu'en pensera Philippe, que si les néoplatoniciens se sont tellement intéressés aux oracles chaldaïques, c'est parce qu'ils ont été fabriqués dans un contexte platonicien, qui n'était pas leur, qui est un contexte médio-platonicien, où le premier élément n'était pas l'un au-delà de l'être, mais l'intelligible. Et c'est pour ça, comme vous le voyez, que les correspondances avec les oracles chaldaïques commence au niveau de l'intelligible et de l'intellect. À partir de ce moment-là, ça fonctionne très bien. Avant, ça ne fonctionne pas du tout. Avec l'un et les sénates, bon, ils arrivent à biaiser un peu, mais vraiment, ça ne marche pas. Et donc, cette structure métaphysique est importée à Byzance, christianisée par l'intermédiaire de l'orthodoxie, et donc est utilisé par Platon d'une façon brutale et comme source de la tradition grecque contre le christianisme et contre l'Occident. Et à partir de ce moment-là, et pour justifier sa prétention, Platon va prendre pour acquis que les auteurs ne sont pas les deux Juliens, mais Zoroastre, c'est-à-dire le personnage le plus ancien et le plus prestigieux que l'on connaisse. Voilà, donc j'ai été un peu confus, mais c'est difficile de ne pas l'être quand on essaie d'expliquer quelque chose de ce genre. Et vraiment, je pense que si j'en avais le temps, mais il serait très intéressant de regarder le grec et de retrouver les correspondances chez Hésiode et dans l'Iliade. Il y a énormément de correspondances au niveau du vocabulaire. Donc en gros, c'est l'interprétation médioplatonicienne du Timus exprimée dans les termes des termes numériques. Merci. Alors, il y a une...